Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a un an, à ce même micro d'Europe 1, Franck Ferrand nous parlait de l'abbé Breuil, grand spécialiste de la préhistoire. Et aujourd'hui, il va plus loin et nous raconte la naissance de la notion même de préhistoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est exactement cela. De nos jours, parler de préhistoire paraît une chose évidente. On sait très bien que pendant les millénaires, les dizaines de millénaires qui ont précédé l'invention de l'écriture et qui ont donc précédé par définition l'histoire, l'homme a vécu, évolué, laissé des traces. Mais ce qui, pour nous, est naturel, pour nos arrière-arrière-grands-parents, ne l'était pas. Dites-vous bien qu'il y a 2 siècles, la préhistoire, les hommes des cavernes, les peintures rupestres, les silex taillés, tout cela était encore dans le néant. La notion de préhistoire n'existait pas. Qui l'a comprise, cette notion? Qui l'a expliquée, démontrée? Comment s'y sont pris les pionniers qui l'ont imposée? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant.
Alors, sans trahir de secret, Franck, je crois pouvoir dire que l'idée de cette émission vous est venue assez récemment.
Oui, très récemment. C'est un des bons côtés de ce métier que de pouvoir faire partager ses enthousiasmes au plus grand nombre. Il y a quelque temps, à l'occasion de la foire aux livres de Brive, j'ai été convié par un grand collectionneur à découvrir son musée préhistorique. Or, je vous avoue que non seulement la collection de Monsieur Claude Douce, mais sa manière de la présenter m'ont emballé et que je me suis dit, ben voilà un beau sujet d'émission.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Depuis quand y a-t-il des hommes sur Terre? Autrement dit, quel est l'âge de l'humanité? Pendant des dizaines de siècles, les textes sacrés ont apporté des réponses à ces questions. Et pour ce qui est de notre civilisation, c'est la Bible, évidemment, qui longtemps a servi de clé pour envisager les origines de l'homme. En s'appuyant sur le texte biblique, et notamment sur la généalogie d'Abraham, l'archevêque anglican Usher, au XVIIe siècle, croyait pouvoir dater la création de manière précise. Quand je dis précise, c'est carrément très précise, puisqu'il disait que la création avait eu lieu en l'an 4004 avant Jésus-Christ. Voilà, c'était très clair. Ça nous fait sourire. Et entre nous, il y a de quoi lorsqu'on sait que saint Augustin lui-même affirmait que le récit biblique de la Genèse n'était qu'une manière figurée de parler et qu'on ne devait surtout pas le prendre au pied de la lettre. Mais c'était la croyance commune de nos ancêtres. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, le poète et philosophe romain Lucrèce avait eu d'incroyables intuitions. Il décrivait déjà la vie des premiers hommes en distinguant 3 grandes époques, l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer, ce qui était faire preuve de sa part d'une incroyable clairvoyance. Parce qu'en vérité, avant que de nouveaux penseurs, en tout cas en Occident, n'envisagent délibérément l'existence d'un homme antédiluvien, c'est-à-dire avant le déluge, il faudra attendre une 20aine de siècles pour que s'ouvre cet horizon au XIXe siècle. Comme le raconte Herbert Thomas dans un petit livre très synthétique, D'où vient l'homme, il aura fallu qu'émergent 3 nouveaux savoirs. D'abord, évidemment, la géologie, la connaissance de l'histoire de la Terre qui permet d'entrevoir l'immensité des durées en cause. Ensuite, la biologie évolutive. Nous avons parlé ici même, Julia, il y a quelque temps, de la révolution mentale qu'a constituée la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces. Et puis enfin, l'anthropologie ou l'archéoanthropologie et plus spécialement la mise en évidence des racines animales de l'homme. À partir du moment où l'on a su d'une part que l'espèce humaine était l'aboutissement dans l'évolution d'une espèce animale et d'autre part que la Terre existait depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait pensé jusqu'alors, il devenait possible de voir ce que personne n'avait vu auparavant, de relever toutes sortes de traces jusque-là négligées, de s'intéresser à des vestiges archéologiques épars et au passage, ça suppose aussi le développement d'une nouvelle discipline, l'archéologie. Cette incroyable période où l'on commence à comprendre que pendant très longtemps avant l'histoire, il y a eu une préhistoire, ce temps des pionniers de la paléontologie ne commence que vers 1820. En France, on est alors sous le régime de la Restauration. Eh bien, c'est à cette époque seulement qu'une poignée de naturalistes et de fouilleurs, ils ne portent pas encore à cette époque le nom d'archéologues, d'ailleurs tous sont des amateurs, c'est alors qu'un petit nombre d'esprits curieux, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Belgique, autant dire dans les quatre pays les plus développés scientifiquement, et ça n'est pas un hasard, c'est alors que ces défricheurs d'absolu commencent à fouiller les cavernes, les dépôts d'alluvions. Alors qui étaient-ils ces pionniers? Quelles furent leurs émotions à mesure qu'ils découvraient les traces de nos plus lointains ancêtres et qu'ils repoussaient les horizons de l'humanité? Et puis, qu'ont-ils peu à peu établi? Comment s'est dessinée la préhistoire? Voilà quelques-unes des questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Nous en profiterons pour nous interroger aussi sur l'évolution des techniques, sur la datation des vestiges, sur la naissance de la spiritualité, de l'art, de la société, de la violence. C'est un des grands mérites de cette discipline récente que de nous amener à nous poser d'importantes questions sur nous-mêmes.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos deux invités, Franck, sur Europe 1, Claude Douze, créateur d'un musée préhistorique mondialement renommé, et Jean-Luc Piel-Desruisseaux, qui est passionné de préhistoire et auteur de plusieurs livres à ce sujet.
Bonjour messieurs. Ce qui est très intéressant dans vos parcours respectifs, c'est que, si éminents que soient vos savoirs en matière de préhistoire, vous n'êtes pas issus du sérail. Vous, Claude Douze, vous êtes un des grands publicitaires français. Je pense que tous ceux qui connaissent le monde de la communication connaissent votre carrière à la tête de McCann Erickson. Quant à vous, monsieur Piel-Desruisseaux, vous étiez chirurgien dans votre vie professionnelle. Et c'est la passion, c'est le goût de tout ça qui vous a amené à la préhistoire. Or, au moment où l'on découvre la préhistoire, on est tout à fait dans le même type de parcours. C'est-à-dire qu'on est en présence de personnes qui, par définition, la discipline n'existant pas encore, sont amenées par leur simple ouverture d'esprit, par la curiosité qui les anime à s'intéresser à la préhistoire. Alors avant d'en venir à leur parcours, à chacun, et avant d'en venir à ces découvertes extraordinaires du début du 19e siècle, il faut peut-être que nous fassions un pas en arrière et que nous demandions quelle vision nos ancêtres avaient des premiers temps et des premiers hommes. En fait, on croyait que tout commençait après le déluge. C'est assez extraordinaire, Jean-Luc Piel-Desruisseaux.
Oui, c'est tout à fait exact. On pensait que l'homme avait été fabriqué, créé par Dieu au sixième jour de la création, et tout d'un coup. Et l'idée d'un homme fossile était absolument pas convenable. Et en particulier, le grand Cuvier, le grand paléontologue, se heurtait à cette idée. Et effectivement, c'était simple. L'histoire de l'homme était très simple. Et quand des gens...
Et très récente, on croyait que c'était 6000 ans, 7000 ans.
C'est ça. Il y avait tout de même, vous avez cité tout à l'heure Saint-Augustin,
oui,
je crois.
Oui.
Buffon était quand même assez génial parce que il avait d'abord rallongé la date de l'apparition de l'homme. Et surtout, il disait qu'en fait, le texte biblique, il ne fallait pas le prendre à la lettre, qu'il avait été écrit pour le peuple. Et voilà. Et il disait, moi, ce que je veux, c'est réconcilier les sciences de la nature avec la théologie. Mais surtout, ne prenez pas ça, messieurs les théologiens, comme quelque chose d'agressif.
Alors, évidemment, il y avait quand même des vestiges préhistoriques et des traces d'outils anciens qui avaient émergé dans les siècles précédents, à une époque où la préhistoire n'existait pas, en quelque sorte. Par exemple, Claude Douze, on avait fait des découvertes même dans la Grèce antique, on ramassait les pierres polies.
Oui, les premiers collectionneurs, c'était les Grecs, Socrate, Platon, récoltaient sans savoir exactement ce que c'était. C'était des pierres polies. En fait, ils pensaient que c'était la foudre qui avait lissé les pierres et elles avaient une magie. Donc on les a retrouvées d'ailleurs plus tard dans les maisons, dans les murs des maisons des Gaulois, et en médecine.
Voilà. Au Moyen-Âge, et alors bien plus encore à la Renaissance, quand se développent les cabinets de curiosité, les grands mécènes, les grands collectionneurs ont dans leur collection des objets étranges qu'on n'explique pas et qui d'ailleurs tiennent une part non négligeable de leur valeur, de cette étrangeté. On ne sait pas ce que c'est finalement. Il y a des fossiles.
Oui, il y a une mode à la Renaissance. Les cabinets de curiosité, on récoltait tout ce qu'on ne comprenait pas, c'est-à-dire des fossiles. Vous aviez des ammonites, des bélemnites, bien sûr, des pierres polies, et puis tout un tas de... Si vous allez au Louvre, vous verrez des tableaux avec des vanités et qui rassemblent un tas d'objets étranges. Ça a été une mode...
Alors, il y avait évidemment des traces, des fossiles d'animaux totalement disparus, ça les naturalistes le savaient très bien, et on trouvait parfois sur les mêmes gisements des outils visiblement taillé de main d'homme et qui pouvait laisser entendre qu'il y avait eu une concordance de temps. Tout de même, on devait se poser des questions. On est là au XVIIIe siècle essentiellement, fin du XVIIIe.
Oui, il y avait ce qu'on appelait le diluvium. En fait, Dieu, pour punir les hommes de leur vanité ou de leur vice, avait voulu détruire l'humanité en protégeant Noé, sa famille et un couple de chaque espèce d'animal, et avait donc provoqué le déluge. Et d'ailleurs, un géologue anglais très reconnu à l'époque, vers 1820, avait décrit ce qu'on appelait le diluvium, qui était des couches de sable et de gravier qui étaient situées au sommet des carrières habituellement, et qui traduisaient donc ce déluge. Et effectivement, en grattant un petit peu dans ce matériel, on commençait à découvrir certains ustensiles, et on en reparlera, Claude Alors, en reparlera, et associés à des os d'animaux qui paraissaient très anciens.
Avec la naissance de l'esprit scientifique, de l'esprit de recherche, on se met évidemment à gratter le sol, à essayer de comprendre l'histoire du sol d'ailleurs. C'est la naissance de toutes sortes de nouvelles disciplines. C'est magnifique ce tout début de 19e siècle. Il y a une efflorescence de savoir extraordinaire. Et des noms comme ceux de Joanet, de Bourg, de Schmerling émergent. Nous y venons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes précisément aujourd'hui sur Europe 1, au cœur de la préhistoire, une préhistoire qui a été découverte bien plus tard qu'on ne le croit.
Mais voilà, en même temps, c'est la préhistoire, mais c'est surtout l'histoire de la préhistoire. Je me rappelle ma stupéfaction quand j'étais étudiant, j'étais déjà assez âgé, quand j'ai découvert qu'en fait la préhistoire était une discipline très récente. Pour moi, c'était une évidence, la préhistoire. Eh bien non, ça a été découvert au début, première moitié du 19e siècle. C'est une véritable invention. On repousse d'un seul coup les horizons de l'humanité. On était un peu à l'étroit dans notre histoire de 6000 ans, là, et d'un seul coup, on se dit, mais non, ce sont des dizaines, ce sont des centaines de milliers d'années qu'il faut envisager. Vous imaginez, ça donne le vertige, évidemment. Alors, Claude Douce, l'autre soir, vous nous avez fait visiter chez vous, au château de Sauveboeuf, qui est tout près de Brive, on est dans le Périgord. Vous nous avez fait visiter l'incroyable collection que vous avez réunie pendant toute une vie de passion. Vous avez une des plus riches collections au monde d'objets préhistoriques, il faut le dire.
Oui, alors c'est une collection qui comporte la liste des grands préhistoriens, donc des vieilles collections de 1860, la naissance de la préhistoire en définitive. Donc c'est ceci qui fait son intérêt.
Une collection de collectionneurs au pluriel, en fait.
Voilà, et d'autre part, c'est une collection qui est non seulement française, mais internationale, à peu près tous les pays. Alors, et elle comprend toutes les phases de la préhistoire, c'est-à-dire les hommes sont arrivés il y a 1 million d'années, au Paléolithique inférieur, donc une très grande collection d'outils sur 700 000 ans, et puis notamment le Paléolithique supérieur, qui véritablement est le plus intéressant, puisque c'est l'art qui apparaît à ce moment-là.
Alors, vous publiez aux éditions PC un ouvrage qui s'appelle Biface, un itinéraire de passion au pluriel. C'est votre autobiographie, en quelque sorte. C'est votre parcours revu et dans lequel vous nous faites partager vos tout premiers émois de chercheurs et de collectionneurs.
Alors, d'abord, c'est un ouvrage de passion. La passion, je l'ai eue très tôt grâce à deux personnes. Le roi Gourand, puisque je faisais de la spéléo et dans les grottes d'Arcy, dans Lyon. Et au moment où je sortais d'une grotte, le professeur venait de découvrir une défense de mammouth. Alors à l'époque, c'était comme aujourd'hui, quand on voit des empreintes de dinosaures, ça a été un choc.
Ouais, c'est très
émouvant.
Et puis
alors le deuxième, alors le virus complet, je l'ai eu avec le professeur Yves Coppens, que j'ai connu avant qu'il découvre Lucie. Et donc c'est devenu un véritable ami, on se voit très très souvent.
Lucie qui est une de nos plus vieilles ancêtres, alors on en parlera tout à l'heure. Toute la deuxième partie de l'émission, je le dis pour les auditeurs qui se disent « mais alors est-ce qu'ils vont parler de préhistoire ?» Oui, toute la deuxième partie de l'émission, nous allons la consacrer à la préhistoire et à toutes les questions qu'elle nous pose aujourd'hui, bien entendu. Je voudrais qu'on continue à découvrir à quel point ça a été une nouveauté que cette discipline. Alors j'ai cité deux ou trois noms tout à l'heure, je parlais de Joanet notamment, qui a été peut-être le premier, on est là, on est
sous l'Empire
encore.
C'est le précurseur, dire que Joanet, d'ailleurs on l'appelle le grand-père de la préhistoire. Donc c'est 30 ans avant l'officialisation de la préhistoire, qui est une science nouvelle en définitive.
Voilà, c'est ça.
Donc avant 1860, on n'avait pas le droit de parler de préhistoire. Donc c'est grâce... Alors Joanet a commencé une trentaine d'années avant avec la découverte d'un site qui s'appelle Batgoul, qui est en Dordogne, dans le Périgord. Et puis, alors surtout, il y a un autre homme qui s'appelle De Bourgh. Alors De Bourgh, il est intéressant parce qu'il habitait le château où Catherine de Médicis est arrivée. Quand elle est arrivée en France, elle a habité le château de Lanquet. Et dans les caves de Lanquet, il a installé vraiment un laboratoire. C'est lui qui a inventé la machine à laver les pierres.
Voilà. Et alors non seulement il les lavait, mais il les répertoriait, il les dessinait, enfin, etc.
Il dessinait très très bien d'ailleurs. Et pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme parce que c'est lui qui a inventé l'identité graphique en fait. À chaque fois qu'il trouvait une pièce, eh bien, il fabriquait la boîte conforme.
Qu'est-ce que c'est que l'identité graphique, faut vous
L'identité
nous
graphique, bah, c'est-à-dire que vous choisissez une couleur. Lui, c'était le bleu. Il avait un graphisme bien déterminé.
C'est-à-dire que pour ceux qui ensuite collectionnent les collections, si je puis dire, c'est assez pratique parce que vous savez d'où viennent les pièces.
Exactement. C'est-à-dire, quand vous voyez une boîte, vous dites, ah, voilà, c'est De Bourgh. Et en plus, il faisait des échanges avec les grands préhistoriens de l'époque, c'est-à-dire Christie, Boucher de Perthes. Et sur les étiquettes, on raconte des histoires.
Alors, on va venir à l'histoire de Boucher de Perthes dans un instant, je vais vous la raconter moi-même. Tous ces noms ont l'air français. Il n'y avait quand même pas que des chercheurs français. Il y avait d'autres préhistoriens en dehors des Français. Il y avait des Belges, notamment Jean-Luc Piel-des-Ruisseaux.
Oui, et je dirais même qu'il y a eu des Anglais avant les Belges. Sûr, oui. Alors, il faut que je parle quand même d'un Anglais ahurissant, c'était John Frère, qui en 1790 environ avait trouvé des outils, ce qu'on appelle les bifaces, là, comme le titre du livre de Claude Douce, des bifaces associées à des os certainement de mammouth. Il avait présenté ça à la Société des antiquaires de Londres et il pensait que c'était extrêmement vieux. Il disait même avant les Gaulois, même avant les Grecs, et pour lui c'était donc un des grands précurseurs, mais c'est tombé à l'eau comme on dit, il n'y a pas eu de suite dans cette découverte.
Et puis vint Boucher de Perthes et plus rien ne fut comme avant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck consacré aujourd'hui à la figure de Jacques Boucher de Perthes.
Et je vous emmène à Abbeville, alors pas pour parler du Chevalier de la Barre cette fois, mais pour parler d'un personnage qu'à l'époque, on est dans les années 1826-1830, à la fin, toute fin de la Restauration, sous le règne de Charles X, et tout le monde connaît la haute silhouette très élégante de ce monsieur Boucher de Perthes, qui est par ailleurs fonctionnaire des douanes, comme l'était son père, et qui, par la curiosité même de son esprit, donne aussi dans la poésie, dans le théâtre, car il est dramaturge, c'est ainsi qu'il se présente du reste, dans la philosophie et dans la musique, car c'est un violoniste émérite et l'on dit même qu'il est un très grand virtuose. Vous avez bien compris que ce Boucher de Perthes est donc ce qu'on appelle, parfois avec une certaine nuance de condescendance, un dilettante, c'est un touche-à-tout. Et c'est justement parce qu'il touche à tout et s'intéresse à tout ce qui peut se présenter qu'il s'est intéressé à ces vestiges très anciens. Je vous disais qu'il est dilettante, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en 1906 va paraître une plaquette biographique à son sujet, d'un certain Jules Carlet, et cette plaquette comporte comme titre Boucher de Perthes, musicien et auteur dramatique. Donc vous voyez que, a priori, il ne passe pas pour un préhistorien. Alors, ce qui rend évidemment Boucher de Perthes à la fois passionnant et irritant pour tous ceux qui l'entendent depuis des années clamer toujours la même vérité, c'est qu'il est convaincu, et il le dit, et il l'affirme à la face du monde, il est convaincu que l'homme a vécu des centaines de milliers d'années avant Jésus-Christ. Vous imaginez quand on dit ça dans les années 1830, ça paraît une chose invraisemblable. Son père, il faut le dire, avait déjà ce genre d'intuition. Il s'intéressait beaucoup aux sciences naturelles. Dans les conversations familiales, le nom qui revenait le plus souvent, c'était celui de Cuvier. On s'intéressait beaucoup aux questions d'évolution, de classification. On cherchait dans la terre des vestiges d'espèces anciennes. Et ce père, qui donc était directeur des douanes à Abbeville, avait obtenu à son fils un poste dans l'administration, dans cette même administration des douanes, pour lui permettre justement d'avoir un peu de temps de disponible. Ce qui fait que pendant toute la matinée, il fera ça pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière, Boucher de Perthes consacre la matinée à ses travaux administratifs. Et puis, dès que vient midi, midi et demi, il se consacre à sa passion. Et sa passion, c'est d'aller fouiller le sol. Il faut dire qu'il a rencontré un médecin qui s'appelle Casimir Picard, spécialiste lui aussi passionné d'histoire naturelle et de géologie, et qui, évidemment, l'a intéressé, lui a ouvert l'esprit. compris dans ces domaines. Vous avez compris que Bouchet de Perthes avait été élevé dans cette idée-là, mais évidemment, grâce à Casimir Picard, ça devient pour lui une véritable passion. Picard est un homme très discret, très prudent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son élève sera moins discret et moins prudent. En tout cas, il est son continuateur. Tout commence vraiment un soir de l'été 1826. Bouchet de Perthes se promène, il est à l'extérieur du faubourg Saint-Gilles, à Abbeville, à droite de la route principale. Il remarque une carrière de sable et tout de suite, parce qu'il est géologue dans l'âme, même si la discipline n'est pas très ancienne à l'époque, et tout de suite il reconnaît ce qu'on appelle un banc tertiaire. Il y a là des silex en quantité sur le sol. Alors, Bouchet en prend quelques-uns, il les examine, en espérant trouver des silex travaillés. C'est son obsession. C'est une intuition qu'il a. Ça, c'est assez extraordinaire. Il n'a pas, Bouchet de Perthes n'a pas déduit l'existence d'une hominisation, comme on dit, des découvertes qu'il a faites. Il en a eu l'intuition avant de découvrir les dix silex. Il en est certain, à une époque très très lointaine, l'homme a dû se servir de pierres taillées, façonnées pour en faire des outils. Ça lui paraît naturel, ça lui paraît nécessaire. Cette intuition, elle va le guider définitivement à partir de ce soir de l'été 1826. C'est là, dit-il, dans les terrains d'alluvion que l'on doit enfin rencontrer l'homme primitif, l'homme contemporain des mammifères. Je fonde mon opinion sur cette remarque toute simple. C'est dans les dépôts laissés par les torrents à la suite des orages qu'on rencontre les objets qui couvraient le sol. Si ma remarque est vraie, c'est dans les amas formés par le courant diluvien que l'on doit trouver des traces de ce qui existait à la surface de la terre. Or, si l'homme y vivait, et je n'en doute pas puisque les grands pachydermes qui ne peuvent subsister que dans les mêmes conditions que lui y abondent, si l'homme existait, il doit y avoir laissé des traces de sa présence ou de ses œuvres quelconques, car tout être humain est ouvrier, c'est dans sa nature. En outre, il doit pourvoir à sa défense. Ses moyens naturels sont faibles, il lui en faut donc de factices. Ces silex étaient assurément propres à en créer, leur matière étant indestructible, bah oui, c'est de la pierre. C'est parmi ces silex qu'il faut chercher les restes d'une industrie primitive. Vous voyez, quand je vous dis que c'est une intuition, quelle idée incroyable et quelle idée révolutionnaire pour l'époque. Alors bien sûr, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais Bouchet de Perthes se trompe sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'il est convaincu, lui, que le déluge effectivement a eu lieu et que c'est dans les traces diluviennes qu'il faut chercher les vestiges. Mais peu importe. Ce qui est le plus important, c'est qu'il ait eu cette intuition d'une existence antédiluvienne de l'homme. En 1828, au banc de l'hôpital, il va découvrir son premier silex. C'est un magnifique silex de 12 cm de long qui porte deux éclats. Alors, vous le verriez, vous trouveriez que c'est un vulgaire caillou un peu ébréché. Mais pour un homme comme Bouchet de Perthes, qui avait concentré depuis des années son attention sur la découverte de ce qu'il attendait comme un vestige révélateur, pour lui, c'est une véritable révélation. Il est convaincu de posséder enfin, ce qu'il cherchait, c'est-à-dire la preuve, la trace de ses outils très anciens. Ce silex, évidemment, il va essayer de le montrer à toutes sortes de spécialistes qui le regardent de très haut, qui ne veulent même pas en tenir compte. Il sera obligé de le coller dans un tiroir. Ce sera le premier objet de sa collection. Et aujourd'hui, il faut savoir que ce silex, il se trouve au château de Saint-Germain-en-Laye, au musée des Antiquités Nationales, sous le numéro 7063. Ce qui prouve qu'il avait raison, Bouchet de Perthes. Alors, il ne va pas tarder à en trouver d'autres, des silex, et puis de plus en plus, bien entendu. Et à mesure qu'il découvre ses outils, il est de plus en plus convaincu de sa théorie. Vous imaginez, il en a eu l'intuition et maintenant les faits, le matériau issu même du sol vient lui donner raison. « Je fis, écrira-t-il, la découverte de quelques couteaux grossiers, là le travail humain devait être évident pour tout le monde. Ici encore, il ne le fut que pour moi. » Et oui, et ça va être le drame de cet homme. C'est qu'à chaque fois qu'il en parle, on se moque de lui. On parle beaucoup de Bouchet de Perthes dans la bonne société d'Abbeville, mais on en parle pour s'en moquer. Et même lorsqu'il se fait connaître à Paris, et Dieu sait qu'il est par ailleurs, c'est un homme très ambitieux, très, il sait y faire et il s'introduit dans des milieux très importants, nous allons voir jusqu'où du reste, eh bien néanmoins, on ne veut pas tenir compte de ce qu'il a découvert. En 1836, il prend un gros cahier et il décide d'écrire ce qui devra être pour lui sa grande œuvre. Nous ne parlons qu'à l'avenir, écrit-il. Il a compris que ses contemporains, de toute façon, ne l'écouteraient pas. La génération présente dira « c'est un insensé », mais la génération future dira « peut-être ». Vous voyez, quand je vous dis que c'est un homme d'intuition. Je cite Colin Simard qui a écrit un beau texte sur l'incroyable carrière de ce boucher de perte. 5 ans plus tard, écrit Colin Simard, il avait terminé la rédaction de 5 volumes de métaphysique où l'on trouve une fantastique accumulation d'idées riches ou pauvres. Il force les portes de l'inconnu, s'élance allègrement dans les profondeurs de l'humanité et déchire la nuit des temps avec des lumières parfois naïve, il se tourne et se retourne dans un chaos où grouillent les premiers germes du monde. Tel est ce livre invraisemblable que Boucher de Perthes, en toute modestie, a appelé la création.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui s'intéresse aujourd'hui à Boucher de Perthes. Vous l'avez compris, un homme d'intuition.
Et oui, et cet homme d'intuition est très connu, notamment dans la Somme, évidemment, à la fin des années 1830. Tous les chefs de chantier et tous les ouvriers savent très bien que lorsqu'ils travaillent, dès qu'ils trouvent quelque chose d'un peu étrange, il faut le lui apporter. Il faut dire qu'il a une fortune personnelle, ça aide, donc il achète volontiers tout ce qu'on lui apporte. Et alors, il va établir un système de primes lorsque des ouvriers découvre un silex et, au lieu de le prendre pour le lui apporter, vont le prévenir pour lui montrer où ils l'ont découvert, alors il leur donne davantage. Ça, c'est la naissance même. Ça prouve que cet homme est un archéologue né. Il a compris qu'il faut que la position et la place du meuble archéologique est plus important, en quelque sorte, que l'objet lui-même. Alors, il va entreprendre de grandes fouilles un peu partout. Il découvre des haches, il les collectionne, ces haches, il les classifie déjà. Il fait des découvertes tellement remarquables que peu à peu, il est en mesure de présenter à l'Académie des sciences une véritable collection parfaitement ordonnée et répertoriée. Mais l'Académie lui rit au nez. On ne veut absolument pas tenir compte de ce qui est considéré comme... Alors c'est énorme, hein, c'est assez horrible. L'Académie considère que les matériaux qui lui sont fournis ne sont pas œuvrés et que les haches de M. Boucher de Perthes ne sont que des cailloux roulés, sous-entendu fruit d'une érosion naturelle. C'est assez terrible. Ce que j'ai vu, dit-il aux académiciens, vous pouvez le voir. Les terrains que j'ai explorés sont là, sous vos pas, les tranchées ne sont pas fermées. Et tôt ou tard, dit-il, sur l'un des vilains cailloux qu'on me jette aujourd'hui à la face, je montrerai la main de l'homme. Eh bien, il n'avait pas tort, une fois de plus. Son intuition, Julia, était la bonne. Puisque, après s'être fait, du reste, ridiculiser publiquement par la Société des antiquaires de Picardie, qui, ce jour-là, a vraiment manqué une occasion d'être discrète, c'était en 1858, honte à cette société savante. Après avoir été ridiculisé, il se trouve qu'en 1859, les Anglais, c'est souvent comme ça en France, vous savez, devant la fermeture d'esprit national, il faut aller chercher à l'étranger la confirmation des intuitions qu'on peut avoir. Eh bien, ce sont en l'occurrence les savants Lyell, John Evans et Prestwich qui vont alertés par l'incroyable agitation dont fait preuve Boucher de Perthes, qui vont débarquer à Abbeville et faire une communication à la Société Royale de Londres qui entérine les découvertes de Boucher de Perthes. Et voilà, ce sont les Anglais qui entérinent. Alors que fait l'Académie des sciences? Eh bien, elle rame, si vous me passez l'expression. C'est assez amusant de voir dans les 3 années qui suivent tous les efforts de l'Académie des sciences à Paris pour essayer de faire oublier le ridicule des avis qu'elle avait pu émettre sur les conclusions que lui avait jusque-là transmises Boucher de Perthes. Les ouvrages de Monsieur Boucher de Perthes ont été retirés du commerce par décision de famille. Il est donc complètement inutile d'en faire la commande. On se demande d'où vient cet avis. Eh bien, de la Société des sciences, de l'Académie des sciences, figurez-vous, après la mort de Boucher de Perthes. C'est assez extraordinaire. Et lorsque Victor Meunier va écrire sa première monographie sur le personnage, eh bien, on s'arrange pour que l'éditeur auteurs mettent l'ensemble de l'édition au pilon. Plusieurs membres de l'Institut ont menacé de démissionner si jamais le livre était publié. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Il aura sa revanche bouchée de perte, puisqu'en 1908, sur la place d'Abbeville, sa statue sera inaugurée. Et ce jour-là, on verra les plus grands préhistoriens avec des trémolos dans la voix nous raconter qu'il a été le défricheur de leur discipline. Évidemment, tous étaient membres de l'Académie des sciences.
Un extrait sur Europe 1 des quatre derniers leaders de Richard Strauss, interprété par Elisabeth Schwarzkopf.
La voix au silex d'Elisabeth Schwarzkopf. Alors, ce boucher de perte, évidemment, n'a pas de son vivant connu la gloire, mais il était convaincu d'avoir découvert la préhistoire. À l'époque, on en était encore à grappiller des vestiges ici et là. On n'a pas encore fait les grandes découvertes de Dordogne, disons-le. C'est là que tout va basculer, Jean-Luc Piel des Ruisseaux.
Oui, les grandes découvertes de Dordogne remontent à 1863.
Mais oui.
C'est un certain Édouard Larté, qui au début non plus n'était pas préhistorien du tout. Il faisait du droit et qui était paléontologue surtout, aidé par un Christie qui était son mécène d'origine anglaise. Larté avait déjà fouillé à Aurignac en 1860. Un gisement qui va donner plus tard le nom à l'Aurignacien, la première période de l'homme moderne en France. Et en Dordogne, effectivement, 1863, grâce en particulier à De Gourgues, qui lui avait montré justement ses collections qui comprenaient des silex de la vallée de la Vézère, qui a un petit peu appâté ces deux nouveaux préhistoriens à venir fouiller dans des abris qui vont devenir célèbres autour des Hésies de Taillac, capitale de la préhistoire, comme on le dit maintenant, et ce qui est tout à fait normal de le dire.
Et on va bientôt, enfin je dis bientôt, au tournant du siècle, on va découvrir des grottes peintes. Enfin sera établie une première chronologie, encore hésitante du reste. Et puis, la chronologie, elle évoluera. Alors vous vivez au milieu de cet univers, Claude Douce.
Il y a une découverte très importante, c'est à la Madeleine.
Eh oui.
Qui a, d'ailleurs, c'est un site éponyme qui a fait le Magdalénien. Et là, on va trouver, sur une défense de mammouth, un fragment avec une gravure de mammouth, mais avec tous les détails. C'est une œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Ces hommes de la préhistoire avaient une minutie qu'on ne peut pas imaginer. C'était des grands artistes. C'est vrai que quand vous voyez une peinture dans une grotte où ils ont eu du mal parce que c'était difficile d'accès. Il fallait faire 100 mètres, 200 mètres, et puis avec une lampe, et avec dans des conditions terribles, dans des boyaux, il fallait peindre. Ils utilisaient la forme des rochers, ils arrivaient à... Ils ont même inventé les 3D. On arrive avec le... Ils ont utilisé le volume. Donc on se demande, ces gens avaient un sens de l'observation.
Mais ça.
Parce que pour revenir dans la grotte sans modèle, c'était extrêmement difficile.
La préhistoire, vous l'avez compris, est maintenant découverte, admise. Elle commence à être balisée. Elle n'en pose pas moins, un siècle plus tard, d'importantes questions.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous sommes aujourd'hui au cœur de la préhistoire.
Et oui, on aurait bien surpris même les tout premiers préhistoriens en leur disant qu'on découvrirait au XXe siècle, au début du XXIe, qu'on parlerait de squelettes qui remontent à 3 millions, à 7 millions d'années pour les plus anciens. Donc on a considérablement étendu, élargi les horizons de l'humanité, bien entendu. Alors ces grottes qui sont découvertes à partir de 1901 et qui vont faire la célébrité d'un certain nombre de régions en Europe, à commencer par le Périgord, bien entendu. Ces grottes nous posent aujourd'hui encore de grandes questions, Claude Douce. On se demande à quoi servaient toutes ces représentations qui ornent leurs parois.
Oui, il y a énormément d'énigmes. Alors, par exemple, c'est un foisonnement de grottes qui sont découvertes à ce moment-là. Et alors, il y a une thématique dans les grottes. Par exemple, à Roufignac, vous avez des mammouths, des rhinocéros laineux, en grande quantité. À Fontgaume, ce sont des bisons, des hordes de bisons. À Combarel, un lion.
On a parlé de Combarel quand Combarel, on parlait de Breuil, évidemment.
Voilà, hein. Combarel. Et puis à Lascaux, des aurochs, des chevaux. Donc, vous voyez, on ne comprend pas pourquoi il y a une thématique. Et puis alors, il y a des signes. Et là, il nous faudrait Champollion, parce que ce qu'on appelle des tectiformes, en forme de toit, il y a des signes qui sont alors particulièrement les mêmes en Dordogne, mais sinon en France différents.
Alors,
en notes de musique, c'est très différent, et là, on ne connaît pas le...
Évidemment, on est confronté à des mystères qui sont d'ordre archéologique, et ce sont essentiellement les outils préhistoriques qui nous permettent d'établir, de façon toujours hypothétique, un certain nombre de chronologies et d'évolutions. C'est passionnant, l'évolution de l'outil, la transformation de ces artefacts. Jean-Luc Piel, Des Ruisseaux.
Oui, alors l'outil parle beaucoup si on sait l'interroger, et les préhistoriens actuels, technologues, savent bien interroger tous ces outils, comment on les faisait, à quoi ont-ils pu servir. Et effectivement, c'est une partie de la chronologie de la préhistoire est basée sur ces différentes formes d'outils, et il y en a de bien nombreux. Les plus anciens remontent à 2 600 000 ans, actuellement trouvés en Afrique de l'Est, en Éthiopie en particulier. Et les premiers outils, c'est un simple éclat coupant, c'était le premier couteau, hein, détaché d'un galet. Lui-même, le galet qui a donné ses éclats, pouvait servir à casser des os, par exemple. On l'appelle le galet taillé. Et cela pendant près d'un million d'années.
Mais c'est ça. En visitant la collection de Claude Douce l'autre soir, ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir que l'évolution de tous ces outils, elle est quand même tardive. C'est-à-dire qu'on a une impression d'accélération de la préhistoire, si j'ose dire, hein, c'est ça.
Alors c'est effrayant.
Parce que pendant très longtemps, ça ne bouge pas finalement. Hein.
C'est ça. Lorsqu'on voit les temps modernes, on est ahuri par rapport à cette lenteur au départ. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le biface, cet outil taillé sur les deux faces. D'ailleurs, avec une belle innovation qui était, on prenait plus une pierre pour tailler ce biface, on prenait un gourdin en bois, ou en bois animal, ou en bois végétal. Et ça, cette découverte, c'est il y a environ 1 million d'années. Et pendant là encore près d'1 million d'années, l'homme va tailler des bifaces, un petit peu comme ça par habitude. Comme l'oiseau fait son nid, l'homme fait ses bifaces.
Vous êtes Jean-Luc Piel Des Ruisseaux, l'auteur d'une encyclopédie pratique des outils préhistoriques, 150 outils et gestes techniques chez Duno. C'est précieux ça pour ceux qui voudraient, dans la campagne, aller à la recherche de vestiges, car on en trouve encore. Moi j'en ai trouvé quand j'étais petit, je pense qu'on en trouve encore.
Exactement,
évidemment.
Dans les labours on peut les ramasser. Bon, il est absolument interdit de fouiller. Là,
ah non, non, mais je ne parle pas
sûr,
de fouiller,
c'est
là,
évident.
Hein, oui, je parle
dans
de
les labours. Et un des plus grands plaisirs, j'avais les larmes aux yeux, c'est lors d'un salon de préhistoire à Rouen. Un cultivateur m'avait présenté un de mes premiers livres pour le dédicacer, et le livre était dans un état piteux car il le prenait sur son tracteur.
Oh oui, c'est magnifique. Vous nous avez apporté un instrument de musique préhistorique. Alors, je vous propose de vous préparer, parce que j'aimerais bien entendre le son que ça fait. Et il me reste 1 minute et demie pour demander à Claude Douce deux choses tout à fait extraordinaires. Quand on a visité votre collection l'autre soir, d'abord, j'ai découvert une chose assez étonnante, c'est que l'art va très bien avec les périodes froides et glaciaires, en fait. C'est assez étonnant, oui. Ça.
Alors, une autre énigme, c'est que l'art disparaît au moment du réchauffement.
C'est ça.
C'est-à-dire, quand les arbres poussent, à ce moment-là, les bisons, les chevaux, les rennes s'en vont. Et, comme par hasard, il n'y a plus d'art. Mais pas pendant 1000 ans, 2000 ans, non, mais pendant 7000 ans, il n'y a plus rien. Alors, quand on voit les beaux bifaces qui ont été faits il y a 500 000 ans, ou les harpons gravés au moment du Magdalénien il y a 20 000 ans, là, on a simplement un tranchet, un vulgaire outil.
C'est incroyable.
Ou un poinçon. C'est un os pointé.
C'est-à-dire qu'il y a des périodes de foisonnement et des périodes de décadence aussi, hein, dans la préhistoire.
Oui.
Et puis, la deuxième chose encore plus étonnante, pour moi, ça a été une vraie révélation, c'est qu'en vérité, les armes apparaissent extrêmement tard, dans des périodes qui sont proto-historiques, en fait.
Oui. Alors, on n'a aucune trace de guerre pendant 1 million d'années. Ce qui est quand même incroyable, et c'est seulement à partir du moment où on cultive et qu'on élève, c'est-à-dire qu'il y a un certain capital, les guerres commencent à ce moment-là. Et on invente à ce moment-là des armes de plus en plus performantes, des haches taillées, et pour les rendre plus agressives, on invente le polissoir. Donc alors, c'est l'évolution de la guerre à partir de là.
Ne réglez pas, pardon, excusez-moi Claude, mais ne réglez pas votre radio, votre autoradio. Ce que vous entendez, ce bruit extraordinaire, eh bien, c'est une musique qui nous sort de la nuit des temps.
C'est fascinant.
Puisque c'est un très très ancien instrument de musique, le plus ancien. Et voilà le bruit que ça fait. Merci beaucoup Jean-Luc Piel des Ruisseaux. Merci beaucoup Claude Douze. Je rappelle vos deux ouvrages, Encyclopédie pratique des outils préhistoriques chez Duno. Et puis vos mémoires, disons-le, Claude Douze. Ça s'appelle Biface, ça ne s'invente pas. Avec d'ailleurs une couverture tout à fait magnifique. C'est aux éditions PC. Et l'on découvrira dans ce livre, en dehors de la préhistoire et de vos passions pour les vieilles pierres, on découvrira également les mémoires d'un grand publicitaire. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.